Economica, Anne Isla
et Jacques Lavergne. Bonjour.
Economica, ou comment rendre accessibles à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Et ravi de retrouver Anne à ce micro. On a un peu tardé à démarrer cette année. On a été un peu feignants, mais bon, Anne Isla est très sollicitée, demandée. Elle court la France, elle écrit, elle enseigne, elle suit des thèses. Enfin, c'est très compliqué. Donc, nous nous calons sur son emploi du temps. Et on va commencer, comme traditionnellement, par la citation du jour. Je vous la livre. La crainte de perdre engendre les mêmes passions que celles d'acquérir, car les hommes ne tiennent ce qu'ils possèdent pour assurer que s'ils y ajoutent encore, et c'est de Nicolas Machiavel qui savait de quoi il parlait. Et puis en cherchant cette citation, je me suis rappelé que ça évoque la pléonexie. Voilà, c'est pas pour faire de culturel, mais ça existe, et c'est le désir d'avoir plus que les autres en toute chose. Donc on prend toujours plus que ce qui nous revient. La pléonexie, déjà dénoncée à son époque par Nicolas Machiavel. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de travail, chose importante par les temps qui courent, la valeur travail, refonder le travail, qu'est-ce que le travail, etc. Anne a beaucoup réfléchi à cette question et elle nous en livrera ses commentaires. Alors, on va quand même commencer, avant de rentrer dans le dur du travail, par quelques brèves sous forme de revue de presse. La première... Eh bien, je l'ai extrait du quotidien en ligne TTSO, dont je vous recommande la lecture. On la reçoit tous les soirs, c'est très commode. Et TTSO, mais ils n'ont pas été les seuls à en parler, nous a fait un peu l'éloge de Claudia Goldin, ou Goldin, je ne sais pas comment on dit, Goldin certainement.
On dit comme on veut.
Voilà, on dit comme on veut, c'est un nom propre. Et donc le prix Nobel, elle l'a reçu sur des travaux qui portent, et c'est un peu finalement, ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui, sur les inégalités salariales hommes-femmes aux États-Unis et en Occident. Alors elle se définit toujours selon TTSO comme une économiste détective, entre guillemets. Elle a décrit les grandes étapes de l'intégration productive des femmes depuis la fin du 19e. Et selon elle, nous sommes entrés depuis la fin des années 70, donc le siècle dernier, je le dis pour les jeunes dans ce studio, nous sommes rentrés dans une phase de révolution tranquille où les femmes, ayant gagné leur indépendance, contraception, acceptation sociale du divorce et on en passe, font elles-mêmes maintenant leur choix professionnel. Et oui, tout s'écroule, Anne. Alors, pourquoi l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste-t-il ? Ça, c'est une question qui m'a toujours stupéfaite. Pourquoi persiste-t-il ? Ben c'est là où, justement, notre nouvelle prix Nobel va radicalement changer la donne. L'économiste, puisque c'est son métier, va montrer que la différence salariale entre hommes et femmes tient à la flexibilité temporelle, temps partiel, horaire moins lourd, pour lesquels elles optent, volontairement ou non, parce que des fois on ne leur donne pas le choix, afin d'élever leurs enfants. Et c'est ce coût élevé que les entreprises font supporter aux femmes. Alors la solution, pour écrire ce que Goldin appelle le dernier chapitre de l'égalité salariale, restructurer l'emploi, afin d'offrir à tous les salariés, femmes comme hommes, de la flexibilité, ce qui la rend moins coûteuse. Et pour TTSO, bien, tout n'est qu'un début. Nous allons voir la suite. Rappelons que selon une étude de France Stratégie qui date d'avril 23, 5 ans après l'arrivée du premier enfant, le revenu d'activité des femmes est inférieur de 20% à celui qu'elles percevraient si elles n'avaient pas eu d'enfant. Chez les hommes, 5 ans après le premier enfant, on constate une augmentation de 5% dans leur rémunération.
Oui, il y a encore du travail à faire.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais vous trouvez ça naturel, Anne ? Vous trouvez ça normal ?
Je ne trouve pas ça normal du tout, d'autant que je suis une femme et donc je le vis aussi.
Est-ce que vous l'avez vécu, vous, directement ?
Oh, bon, ça, c'est... une question un peu intime, mais oui, bien sûr,
on a envie de connaître votre intimité.
On le vit forcément quand on est une femme, on le vit forcément. Alors un peu moins, bien sûr, quand on est enseignant à l'université, parce que c'est un service public, mais on le vit tout de même, on le sait bien au niveau des recrutements, etc. Alors peut-être qu'aussi, donner plus de flexibilité, ce serait obliger, par exemple, aussi les hommes à avoir un congé obligatoire des mêmes nombres de jours que les femmes pour leur congé maternité. S'ils étaient obligés de s'arrêter, au moins on aurait une égalité là-dessus au niveau...
Si tout le monde s'arrête, il n'y aura plus personne au boulot, Anne.
Oui, d'accord, mais bon, tout le monde ne fait pas des enfants en même temps et au même moment. Alors, c'est important, oui, aussi que ce soit une femme, une troisième femme à avoir le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, hein, puisque c'est le titre officiel, il n'y a pas de prix Nobel en économie. C'est la troisième femme depuis que ce prix existe, 1969, après Elinor Ostrom en 2009 et Esther Duflo en 2019. Donc là aussi, au niveau académique, on essaie de reconnaître un peu plus le travail des femmes, et notamment en sciences économiques. C'est bien.
Alors, si on lit Le Monde, celui qu'on baptise souvent de journal du soir, l'activité économique devrait enregistrer une légère progression de 0,1% au troisième trimestre sur fond de ralentissement de l'inflation. Donc 0,1%, c'est pas beaucoup. Et c'est une annonce rapportée par Le Monde, mais qu'elle tient de la Banque de France qui l'a dit le 9 octobre. Alors, bien que résistante entre juillet et septembre, l'activité marquerait toutefois un net ralentissement après le rebond inattendu de 0,5% du fameux PIB, comprenez produit intérieur brut, qui a été observé au deuxième trimestre. La conjoncture d'après l'été est moins favorable que celle que l'on avait juste avant l'été, a déclaré Olivier Garnier, qui est le directeur général des statistiques des études internationales à la Banque de France, en présentant la nouvelle enquête mensuelle de conjoncture de l'institution. Mais, a-t-il rajouté, on n'est pas du tout dans une situation de récession, donc nous voilà rassurés. En septembre, la Banque centrale avait dit anticiper une hausse de 0,1 à 0,2% du PIB au troisième trimestre. De juillet à septembre, l'activité aurait bénéficié de la fin des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, de l'effet positif du redémarrage de réacteurs nucléaires et de la résistance des services comme l'hébergement ou la restauration, toujours selon la Banque de France. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Anne ?
Moi, ce que j'en pense de dire de l'avenir, et puis on prévoit que l'augmentation du PIB sera de temps ou de temps. Déjà, on sait très bien que ce que c'est que le PIB, ça mesure la croissance et la croissance de certains biens, etc. Donc, en général, je ne pense pas grand-chose de ce genre de chiffres. Il faut attendre de voir. Et puis, avec tous les événements qui se sont passés ces derniers jours aussi... Bon, on verra si ces chiffres...
D'autant que le PIB, nous le savons, n'est certainement pas le meilleur thermomètre qui soit. Beaucoup d'économistes le disent. Yes, je crois qu'on continue à s'accrocher à ça. Il faudrait...
Voilà, c'est faire des chiffres pour faire des chiffres.
Oui, voilà. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure... encore une fois, le meilleur thermomètre qui soit, la température n'est pas tout à fait exacte parce qu'elle n'est pas prise, si je puis dire, au bon endroit.
Oui, c'est ça.
Le canard enchaîné nous apprend toutes les semaines beaucoup de choses. Et là, il nous dit que la balance commerciale française va se retrouver plombée de 1 milliard d'euros par un moucheron. Vous voyez, un moucheron, petite cause, grands effets. Un moucheron, c'est très petit, des antennes couvertes de poils bruns, des ailes larges et tachetées et une taille qui n'excède pas 3 mm. Le canard enchaîné s'est penché sur la question. Et cette bestiole minuscule menace les exportations de broutards vers l'Italie, parce que nous envoyons systématiquement toutes nos bêtes en Italie, notamment pour les faire engraisser. Alors, je ne vous dis pas comment ça se passe. Hein. Les camions arrivent jusqu'à la frontière et puis sont pris en charge par des gens, pas forcément inscrits au registre du commerce. On n'en dira pas plus, mais vous pouvez imaginer. Alors, c'est un assez juteux débouché pour notre filière bovine tricolore. Mais ce moucheron qui les pique vient de refiler le virus de la maladie hémorragique épizootique à des bovins français, donc ça fait quand même un peu désordre, surtout que ça provoque des fièvres, des anorexies, des boiteries, des détresses respiratoires, hein. Encore une fois, petite cause, grands effets, il est minuscule, mais il fait du dégât, il n'existe pas de vaccin, et les éleveurs du Sud-Ouest, qui sont les premiers touchés, n'ont plus le droit d'exporter leurs bestiaux. Vous voyez ce que c'est que la mondialisation. Et puis, le joint au réchauffement climatique, ça produit des effets auxquels on ne s'attendait pas. Alors, ce virus vient d'origine d'Amérique. Il vient, puis bon, il s'est répandu au gré des voyages en bateau, en Asie, en Australie, en Afrique. Vous avez vu qu'il y a d'autres virus qui se répandent. On a eu l'exemple du Covid. Ça va très, très vite. Il s'est installé même en Sardaigne, parce qu'en Sardaigne, il fait bon, les températures sont élevées, il aime bien ça. La maladie, rassurons-nous, pour l'instant, n'est pas transmissible à l'homme. Enfin, bon, on peut tout espérer. Nous avons là, avec cette transhumance alpine, avec des camions de nos broutards, il y avait quand même 800 000 jeunes bovins tout juste sevrés qui prenaient la direction du nord de l'Italie. On les engraissait dans des étables géantes, en mode accéléré, avec des rations de maïs. Donc vous voyez, le truc, c'est vraiment pas très ragoûtant. Et puis vers 16 mois, ils partaient à l'abattoir, ils finissaient sur les étals comme viande de taurillon, les Italiens adorent ça. Et alors qu'en France, on a plutôt l'habitude, nous, de consommer la vieille carne, la vieille vache, qui ne produit plus de lait. Donc là aussi, nous allons avoir une population d'agriculteurs qui va être touchée d'ailleurs, qui commence à être touchée par ailleurs par le réchauffement climatique. Mais là, ça va impacter directement notre balance commerciale. 1 milliard, nous dit le Canard Enchaîné.
Oui, il est temps de restructurer l'agriculture et l'élevage, d'arrêter l'élevage intensif qui fragilise aussi les bêtes qui sont plus malades. Et puis on les nourrit n'importe comment avec du maïs et des antibiotiques, ça fait bien grossir.
Oui, ils sont bien piqués comme il faut. C'est un problème. On en a parlé dans l'émission Arcania avec une professionnelle de l'École nationale d'agriculture de Toulouse, l'ENSAT. Et puis nous allons aborder prochainement, le mois suivant, je crois, la question des pesticides en agriculture. Vaste débat. Une enquête vidéo, pour changer un peu de la presse écrite, mais qui vient du Monde. Comment les banques françaises financent le plus gros producteur mondial de pétrole? Alors, figurez-vous que le Monde a obtenu des informations qui révèlent que 4 banques françaises ont permis à la Saudi Aramco de se financer à hauteur de 16 milliards de dollars depuis 2019, des financements qui entrent en contradiction avec leurs propres engagements. Alors, Saudi Aramco est détenu à 98%, vous en étiez peut-être douté, par l'État saoudien. C'est le premier producteur de pétrole au monde et l'entreprise la plus émettrice de CO2, émissions directes et indirectes comprises. Et surtout, elle assume une politique d'expansion pétrogazière agressive qui est bien évidemment incompatible avec une trajectoire neutre en carbone en 2050. Alors, pour soutenir cette croissance, Saudi Aramco s'appuie sur des financements internationaux, prêts ou émissions d'obligations arrangées par des banques, et parmi elles, plusieurs banques françaises entretiennent une relation commerciale très privilégiée avec ce groupe pétrogazier. On va les citer: BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, et puis dans une moindre mesure, BPCE Natexis. Le Monde a obtenu et analysé des documents financiers, tout ce qui était disponible en ligne et sur les bases de données. Et je vous renvoie à son enquête vidéo, hein, qui est visible sur tous les bons écrans. Et vous aurez le détail de ces collaborations qui sont quand même un peu désagréables.
Eh oui, on a privatisé la monnaie à partir des années 1980. Maintenant, la création monétaire est privée. Et on le paye, on a du mal à imposer des règles de comportement aux banques. Bon, on pourrait faire toute une émission sur ce problème, peut-être on en fera une, on en a déjà parlé.
On en a déjà parlé, mais on s'interdit pas de...
Peut-être qu'il faudrait en reparler.
Bien, eh bien, écoutez, ces bonnes nouvelles étant livrées à votre réflexion, nous pouvons entamer le plat de résistance de notre émission. Donc, on va parler du travail. Alors, c'est curieux qu'on parle du travail. Alors, pas nous, mais qu'on parle du travail aujourd'hui, qu'on n'en ait surtout pas parlé avant de faire une réforme des retraites, parce que la retraite, ça vient après le travail. Et si on n'a pas un peu éclairci cette question, cette notion de travail, et surtout son évolution dans les années à venir, avec peut-être plus de pénibilité, nous avons un réchauffement climatique, avec des personnes d'un certain âge dont le marché du travail ne veut plus, etc. On va en reparler. J'ai un peu l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs, pour prendre une métaphore agricole et rebondir sur ce qu'on vient de dire. Alors Anne, c'est quoi le travail finalement ?
Alors le travail, c'est très compliqué à définir. Est-ce que travailler, c'est avoir un travail rémunéré ? Par exemple, garder ses enfants, faire garder ses enfants, c'est un travail. Les garder soi-même, ça n'est pas un. Tondre sa pelouse, c'est un travail. Si on le fait faire par un jardinier, le faire soi-même, ce n'est pas considéré comme un travail. Et le travail bénévole, est-ce que ce que je fais dans cette radio bénévolement...
Ce que nous faisons,
sur cette radio, c'est un travail. Pourtant, la valeur est la même et la valeur produite pour la collectivité est la même. Pourtant, dans un cas, on considère que c'est un travail, dans un autre, non.
C'est une considération quand même un peu étroite de dire que ce qui n'est pas rémunéré est un travail. Parce que si on mettait dans notre fameux PIB tout ce que font les gens qui travaillent dans des associations, et j'emploie le mot à dessein, qui travaillent dans des associations, je pense qu'on aurait peut-être une vision différente des choses.
Oui, bien sûr, mais pourtant on ne le considère pas, par exemple, quand on rémunère les retraites. Et on pourrait aussi se dire, est-ce que le travail, c'est une contrainte ? Pourtant, les écoliers, on les fait travailler, ils ont des devoirs à la maison et on considère que c'est pas du travail. Ou est-ce qu'un joueur de foot ou un comédien travaille ? Non, ils jouent au foot, ils jouent la comédie. Ils sont rémunérés, parfois
là,
même très bien.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'un comédien, c'est un travail, c'est une technique, c'est de l'énergie.
Oui,
c'est...
mais est-ce que les comédiens perçoivent ça vraiment comme une contrainte ? Quand vous entendez des interviews, ils disent souvent ce travail, c'est ma passion. C'est pas une contrainte, c'est ma passion, c'est mon plaisir.
On avait hier à ce micro un monsieur qui est un préhistorien, qui est un archéologue, qui... à l'âge de retraite et qui a dit « mais non, moi je continue parce qu'effectivement je passe ma journée à ça, c'est un travail mais j'y prends tellement de plaisir ». Alors ça voudrait dire qu'il y a la notion peut-être de réalisation personnelle et de plaisir qu'il faudrait introduire pour définir ce qu'est dans le travail. Il y a des gens qui sont à la chaîne, qui en souffrent et on voit aujourd'hui les maladies, et si on interroge les quelques médecins du travail qui restent, on aurait certainement un éclairage qui serait... un peu inquiétant pour nous, mais il y a aussi des gens qui font de métier par plaisir et qui n'ont absolument pas envie de s'arrêter parce qu'ils s'y sentent bien et qu'ils s'y réalisent pleinement.
Oui, donc c'est bien, c'est exactement ce que je dis, merci. C'est bien que le travail, ça ne peut pas non plus se définir par la contrainte. Le premier sens du mot travail est lié au travail de l'accouchement, c'est-à-dire à la souffrance et à la création. Et à partir de là, on peut démarrer de cette étymologie.
La conception, d'après vous, donc, n'est pas une souffrance de l'enfant, bien sûr.
Eh bien si, l'accouchement, c'est la souffrance.
Non, mais je pensais à l'homme, là, c'est normal, je suis un homme. Alors je pensais au travail de l'homme qu'il a fait en amont, sans quoi il n'y aurait pas d'enfant.
Ah oui, non, mais ça c'est le travail de l'homme, est-ce que c'est vraiment un travail avant ? Non, le mot travail, c'est vraiment... Le premier sens, c'est le travail de l'accouchement et pas le travail de la conception. Ça, c'est pas... J'espère que pour beaucoup, c'est pas un travail. Donc, à partir de là, à partir du mot souffrance et création, on peut concevoir deux sens, deux acceptions du mot travail. Le travail comme une contrainte, il faut travailler, il faut souffrir pour pouvoir consommer. Et le travail comme une création, comme une réalisation des êtres humains, hein, ce qui renvoie à la créativité. Donc, on pourrait le dire d'une façon un peu différente. On pourrait dire qu'il existe une signification anthropologique décontextualisée du travail et une signification institutionnelle, c'est-à-dire située, historique, contingente, conventionnelle du travail. Alors, la dimension anthropologique, elle renvoie donc au faire, à l'activité, à la création, faire quelque chose, que cette activité soit payée ou non, utile ou non. Donc, cette vision suggère qu'il y a une valeur intrinsèque au travail. Dans ce cas, si une personne est empêchée d'élaborer son action, sa créativité, hein, parce qu'il y a des déterminations sociales chaotiques, contradictoires, dit autrement, si cette personne ne peut pas faire une élaboration signifiante, sensible, si ce qu'elle fait n'a pas de sens, la situation devient délétère et l'action, le travail, devient inhumain. Et on va pouvoir commencer à parler de la souffrance au travail. pour une philosophe qui a beaucoup travaillé sur le travail, Simone Weil.
Et qui a été elle-même au travail, parce que
oui, qui a travaillé en usine.
Elle n'a pas fait que réfléchir dans un bureau, elle travaillait en usine.
Elle travaillait en usine pour réfléchir justement sur cette notion de travail. Donc, elle constate que c'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. Et elle rajoute, et la pensée est bien la suprême dignité de l'homme avec un grand H.
Je pense donc.
Oui, et donc la première condition pour qu'un travail soit digne, dit-elle, c'est de donner au travailleur une tâche dont il comprend le sens, de créer un lien entre la pensée et l'action. Peu importe, dit Simone Weil, que les actions en elles-mêmes soient aisées, douloureuses, peu importe même qu'elles soient couronnées de succès. La douleur et l'échec peuvent rendre l'homme malheureux, mais ne peuvent pas l'humilier aussi longtemps que c'est lui-même qui dispose de sa propre faculté d'agir. Donc le travail qui est imposé, qui est insensé, est donc source d'insatisfaction et de souffrance, elle l'a vécu elle-même.
On va aller chez Amazon, par exemple, dans ces entrepôts d'Amazon, et là nous aurons peut-être la démonstration du contraire, enfin dans les faits, dans ce qui se passe.
Oui. Mais on n'a pas besoin d'aller à Amazon, on peut aussi aller être un infirmier, une infirmière dans un hôpital et voir qu'on fait faire un travail qui a de moins en moins de sens en ne permettant pas de prendre suffisamment de temps avec les patients, par exemple. Donc, il y a une autre dimension du travail, on va en parler dans un instant.
Voilà, on va en parler dans un instant, on va faire la première pause musicale pour que les interlocuteurs aient le temps de se faire à cette idée et à ces idées. Et celle-là, c'est la vôtre. Alors, je vous laisse la présenter.
Eh bien, j'ai choisi une chanson du groupe Trio de 98, l'hymne de nos campagnes, donc qui appelle à respirer et à profiter de l'eau fraîche.
Ça va nous faire du bien.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes.
Ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal.
Pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir,
dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car en lopin de terre,
une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
Cordes vocales, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières.
Bien, après cette pause musicale qui nous a fait respirer l'air de la campagne, que vous affectionnez, moi aussi d'ailleurs, reprenons notre causerie, la vôtre, sur le travail. Et vous nous aviez laissé au moment où...
Il y a une autre dimension à côté de la dimension anthropologique, c'est la dimension institutionnelle du travail. Donc là, cette dimension, elle relève d'un jugement économique et d'utilité pour définir les actions qui sont du travail. Et cette dimension, elle va s'articuler aussi autour des notions de créativité, réalisation des êtres humains, et de contraintes, contraintes de marché. Alors, là, on a deux possibilités. Soit la créativité est mise au centre de la reconnaissance institutionnelle. Le droit et le marché doivent donc s'adapter à cette créativité. C'est par exemple la déclaration de Philadelphie en 1944. Donc c'est la déclaration qui concerne les buts et objectifs de l'Organisation internationale du travail, qui enjoint aux États de promouvoir, je cite, « l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun. »
Alors c'est vrai que quand on l'entend, c'est fabuleux, mais ça ne se passe nulle part sur la planète, quasiment pas.
Quasiment plus, et pourtant...
Même pas.
La charte européenne en 2000 précisait aussi que toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
Mais est-ce qu'on est libre quand on n'a pas d'argent pour vivre et donc on est obligé de se plier à un travail qu'on n'a pas forcément choisi, qui est contraignant, qui est physiquement pénible ou qui est dirigé par des gens totalement insupportables, pour ne pas dire autre chose?
Oui, c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il y a, en fait, c'est l'autre aspect, c'est la contrainte qui est mise en avant aujourd'hui. Et là, il va être fait référence aux besoins du marché et aux besoins des êtres humains, besoin de consommer pour vivre. Donc cette fois-ci, le travail est considéré comme une ressource humaine qui doit répondre aux besoins de l'économie, notamment aux besoins des entreprises. Et la main-d'œuvre, cette fois-ci, doit s'adapter au marché. C'est l'article, par exemple, 145 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui enjoint aux États donc de promouvoir, cette fois-ci, je cite, « promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que de marché du travail apte à réagir rapidement à l'évolution de l'économie. » Donc là, on voit que c'est un renversement de la vision du travail. Donc cette fois-ci, le travail est un facteur de production, on dirait en économie, une ressource humaine, on dirait en gestion, une tâche, sans histoire ni sujet. L'être humain doit travailler pour satisfaire ses besoins pour vivre. Et les économistes mainstream, hein, les économistes dominants, dont je ne fais pas partie, s'inscrivent dans cette approche et par conséquent ne vont percevoir le travail que de façon négative, en omettant la partie créatrice du travail. Pour eux, il n'y a que deux sources de satisfaction. Les individus ne poursuivent que deux intérêts, la consommation et le loisir. Et on pourrait considérer que le loisir, c'est de la consommation de temps.
Les Romains l'avaient déjà dit, panem en circenses, c'est ça, hein, du pain et des jeux, ça s'arrête ça. Là, vous n'avez que... Vous êtes des machines à travailler de temps en temps, on les repose et on les amuse pour qu'elles ne viennent pas trop nous perturber, c'est ça.
C'est exactement ça. Donc le travail, c'est une perte de temps, une fatigue, une désutilité, compensée par un revenu. C'est l'expression « tout travail mérite salaire ». Le salaire, c'est ce que l'on mérite si l'on travaille. Donc dans ce cas, le travail, c'est une marchandise. On vend son travail contre un salaire. L'utilité
de ce... On vend son corps, pardon, je vous interromps, mais ça revient à vendre son corps. Il y a une espèce quand même de prostitution là-dedans.
Oui, tout à fait.
Puisque le corps est marqué par le travail. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe actuellement avec... Il y a beaucoup d'arrêts de maladies. On dit à ces médecins, oulala, vous faites très mal leur travail, vous cédez aux sirènes de vos... On va pas dire de vos clients, mais de vos patients, et vous êtes un peu trop laxiste, et ces gens sont vent debout parce que il y a certainement quelques égarements, quelques débordements chez les médecins, mais c'est loin d'être à la majorité aujourd'hui. Très loin d'être à la majorité. Alors, j'avais relevé une phrase là. Les médecins du travail disent « Nous constatons un profond mal-être au travail et surtout, et ça n'existe pas beaucoup chez nous, un manque de prévention. » et le Anne Fabre-Marie, qui est médecin du travail et membre d'une consultation souffrance et travail à Lyon, nous dit « Dans le privé comme dans le public, de plus en plus de salariés sont pris dans des conflits de valeurs ou pâtissent du manque de moyens et de l'intensification du travail. » Parce qu'intensification, il y a.
Oui, tout à fait. C'est pour ça, quand on dit il y a de plus en plus d'arrêts de travail, c'est pas tant que les médecins donnent de plus en plus d'arrêts, c'est que les gens sont de plus en plus mal dans le travail. C'est ce travail qui est privé de l'expérience proprement humaine, hein, comme disait Simone Veil du travail, qui consiste à réaliser quelque chose que la personne a imaginé et que la personne comprend. Donc, dans la reconnaissance institutionnelle de la dimension anthropologique du travail, hein, le travail le droit de faire cette expérience proprement humaine est reconnu à la personne. Donc le travail ne se résume pas à sa rémunération, mais comporte aussi quelque chose qui fait sens pour lui. Hein, c'est la déclaration de Philadelphie. Alors que dans la vision que l'on a aujourd'hui, qui est portée, donc, comme je le disais, par la majorité des économistes, on se réfère uniquement à des besoins. Le travail est une marchandise qui répond à des besoins donc... pour le marché du travail et pour le travailleur de consommer. Et cette vision, elle va prôner ce qu'on appelle la valeur travail, qui est un peu différente de la valeur du travail. La valeur travail, on pourrait la définir ainsi, c'est le travail est une contrainte, une souffrance, donc il génère un mérite. Ce mérite donne droit à du pouvoir d'achat et il nous donne droit à du loisir, après un sacrifice d'une partie de notre temps, de notre vie, dans une dure vie de labeur. Donc c'est cette valeur qui est martelée en permanence, parce que c'est la valeur capitaliste, hein, c'est la valeur de l'économie de marché par excellence. Je me sacrifie aujourd'hui pour pouvoir consommer demain, un demain d'ailleurs qui recule régulièrement oui. Au fil des réformes des retraites.
On se sacrifie, mais certains... J'ai découvert cette notion, je ne sais pas si vous la connaissiez, de présentéisme. C'est-à-dire qu'il y a, c'est Alain Villebrod qui est sociologue et auteur de « Travailler en étant malade », c'est chez l'Harmattan, qui nous dit « On préfère débattre de fraude et du prétendu dilettantisme des salariés plutôt que des conditions de travail qui se dégradent depuis 20 ans dans le privé comme dans le public. » Et là, il nous fait état de présentéisme, c'est-à-dire des gens qui, financièrement, font abstraction de ce que leur dit leur corps, pour faire bref, et qui les poussent au travail, surtout chez les moins bien payés. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui n'était pas trop mal payé, qui travaillait pour au service de l'État, qui a eu un accident de travail, donc elle était arrêtée. Elle a un salaire qui a diminué du fait qu'elle est arrêtée, qu'elle a dit « je ne peux plus tenir économiquement, donc même si mon médecin n'est pas d'accord, je vais reprendre le travail ». Et ça, c'est un exemple parfait de présentéisme. On est poussé, pour des raisons matérielles, évidentes, à reprendre un travail que l'on ne peut plus assumer, ou moins temporairement pas assumer.
Oui, parce qu'il faut gagner le mérite de vivre, c'est-à-dire il faut mériter de pouvoir répondre à ses besoins, et ce mérite, on l'obtient grâce au travail. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que depuis les années 90, on a développé cette vision marchande du travail. On utilise de plus en plus une formule que je trouve, pour ma part, horrible, c'est le marché du travail, c'est-à-dire le marché des êtres humains qui travaillent.
On parle de variable d'ajustement économiquement en parlant des salariés qu'on va licencier.
Oui, donc, bien sûr.
Donc, pour une année.
Parce que le travail, vous devancez un peu ma démonstration, mais tant pis, je vais y aller directement. Le travail, il est considéré en économie, même dans le bilan des entreprises, comme un coût. La valeur du travail, c'est un coût. Et donc, si c'est un coût, si c'est comptabilisé de cette façon-là, il va falloir réduire au maximum ce coût du travail, réduire donc la masse salariale, au maximum la rendre plus rentable, plus efficace, mesurer le travail d'une certaine façon, etc. Donc on a véritablement une perte de la valeur du travail au profit de la valeur travail, dit plus rapidement, qui est cette valeur du travail marchandise. Et donc on arrive à des contradictions. Par exemple, le 29 août dernier, au congrès des patrons, au congrès du MEDEF, Bruno Le Maire va se réjouir, hein, s'est réjoui de 2 millions d'emplois créés, la France, la nation la plus attractive d'Europe pour les investisseurs étrangers, 300 usines ouvertes, 100 000 emplois industriels créés, etc., etc. Et pourtant, la pauvreté augmente. On l'a vu avec notamment l'histoire des Restos du Cœur, y compris parmi les travailleurs.
Et même chez les étudiants qui sont pour être aussi considérés comme des travailleurs.
Oui, même chez les étudiants et même chez les travailleurs qui touchent de faibles salaires. Donc le drame de la France, mais aussi des autres pays développés, entre guillemets, ou démocratiques, entre guillemets, c'est le décrochage des revenus du travail. Comme l'explique une autre prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, Esther Duflo, c'est aux États-Unis que cette évolution est la plus marquée. Le pays connaît une forte croissance, donc le PIB augmente, mais le revenu médian augmente peu, tandis que le niveau de vie des personnes au revenu minimum s'effondre. Même les difficultés de recrutement des entreprises n'ont que peu accru le pouvoir de négociation des salariés. Si je prends un pays comme l'Allemagne, qui a de forts excédents commerciaux,
Ça semblerait un peu se tasser, cette affaire.
Ça se tasse, mais elle est quand même, en matière d'excédents commerciaux, la mieux placée au niveau européen. Donc les salaires réels sont inférieurs de 6% à ce qu'ils étaient fin 2019, en 2023. En France, la fortune héritée représente 60% du patrimoine total. Autrement dit, la majorité de ce que les Français possèdent est due au hasard de leur naissance et non à leur mérite individuel, à leur travail. Alors, revenons sur ces deux visions du travail. On pourrait aussi faire deux autres catégories pour qualifier le travail. Donc là, je vais utiliser les grands mots.
Grand remède.
Les gros mots pour certains. On peut dire qu'il y a une vision capitaliste du travail et une vision communiste du travail. Alors, capitaliste dans le sens accumulation marchande, croissance, maximisation du profit, économie de marché, etc. Et communisme dans le sens mise en commun, décision commune, activité pour le bien commun. Et absolument pas, donc là je parle pour les plus âgés, hein, le soi-disant communisme de l'Union soviétique, hein, qui pour moi n'a rien de communiste.
Ça peut être par exemple chez nous et ailleurs d'ailleurs une activité en coopérative.
Par exemple, voilà. Ouais. C'est communisme dans le sens de commun. Hein. Il ne faut pas, bien sûr. Alors là,
on n'avait pas le couteau entre les dents, je peux le dire.
Donc là, on a les travaux, par exemple, de Bernard Friot qui sont éclairants. Hein. Donc Bernard Friot va très loin. Et je trouve que ce qu'il dit peut nous permettre à réfléchir sur cette notion de travail. Donc Bernard Friot, c'est un économiste, un sociologue, spécialiste du travail. Et que nous dit-il ? Dans la vision capitaliste du travail, donc le salaire est la rémunération d'un travail fourni. Il faut mériter son salaire. Alors que dans la vision communiste, le salaire, c'est la condition indispensable pour que le travail soit libre. Dans la vision capitaliste, donc le salaire est perçu une fois le travail fait. Dans la vision communiste, le salaire est la condition pour que le travail soit fait. Alors je m'explique, je vous donne des exemples. Si on prend par exemple les retraités, du moins, je prends ceux qui touchent un salaire suffisant pour vivre, c'est-à-dire 9 millions de retraités sur les 17 millions aujourd'hui. Hein. Donc, ces retraités touchent une pension. Et ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'investir dans le bénévolat, comme par exemple animer une émission de radio, n'est-ce pas ?
Mais vous n'êtes pas retraité.
Moi, je ne suis pas retraité. Mais il y en a d'autres qui le sont et qui animent des émissions radio. Donc, c'est la liberté du travail, c'est la possibilité de choisir. Les retraités peuvent s'investir dans des activités pour le bien commun, des activités qu'ils ont choisies. Et c'est aussi en ce sens que l'on avait pensé le salaire lorsqu'on a mis en place le fonctionnariat. Le fonctionnaire touche un salaire qui lui permet d'exercer plus ou moins librement, de moins en moins librement, je dirais aujourd'hui, son travail, sans être soumis à la pression d'un client ou d'un usager, d'un élève pour un enseignant, d'un bandit pour un policier, etc. Donc, alors que dans le capitalisme, le salaire est conditionné à une contrainte, le travail n'est pas choisi ni défini par le travailleur ou la travailleuse, dans la vision commune, communiste du travail, on a une vision inversée. Or, en France, donc, avec le système de retraite que l'on a encore, un petit peu, on a une partie du travail qui est effectuée, qui n'est pas capitaliste. C'est le travail justement effectué par les retraités. Et c'est justement pour cela que le régime des retraites, enfin c'est une des raisons pour laquelle le régime des retraites est détricoté petit à petit depuis qu'il a été mis en place en 1946. Hein, il a été détricoté très rapidement. On en a déjà parlé dans une émission précédente sur les retraites, parce que cette vision des retraites, et donc du travail, telle que l'avait conçue Ambroise Croizat, c'est une vision non capitaliste, non marchande du travail. Donc, je me répète, dans un système capitaliste, le travail, c'est la soumission, l'aliénation. On vend son travail, voire son corps, hein, contre salaire. C'est un paiement à l'acte. Ce n'est pas celui qui travaille qui décide du travail qui doit être fait. Avec, bien sûr, l'impasse humaine, anthropologique dont nous parlions tout à l'heure, et aussi l'impasse écologique. Donc, le travail qui doit être fait est décidé par ceux qui ont le pouvoir dans l'entreprise, en fonction uniquement de l'augmentation du profit, qui se traduit d'ailleurs pour les grandes entreprises par la valorisation actionnariale. Ce n'est pas le travailleur qui décide du sens du travail, ni des conditions du travail. Donc dès lors que nous avons un travail que nous ne maîtrisons pas, nous y allons en reculons, dans la souffrance.
Bah, c'est un peu le fordisme, hein, quand... On a mis les gens à la chaîne, alors voir le film de Charlot là-dessus, de Charlie Chaplin, hein. C'est ça, c'est le fordisme.
C'est le fordisme, mais à part que le système fordiste, avant les années 80, il y avait quand même une sorte de pacte, de contrat, entre le monde du travail et le monde du capital, qui faisait qu'on partageait tout de même la valeur ajoutée, qu'on partageait la richesse accrue, l'augmentation de la rentabilité du travail. Ça, on ne l'a plus. Donc, c'est le régime fordiste, mais financiarisé aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
On rajoute une couche. En fait, chaque fois, on rajoute une couche. Donc, pour aujourd'hui, pour que les gens continuent à travailler, bien qu'ils soient de moins en moins d'accord avec le travail qu'on leur impose, il faut voir les infirmiers, les infirmières, les professeurs des écoles, les gendarmes, etc. Il faut bien que l'acte ne soit payé qu'une fois qu'il a été fait. Et sur cet acte précis, et sur cet acte tel qu'il est mesuré par ceux qui décident du travail. Hein, par exemple, on va mesurer plutôt la répression chez un gendarme que la prévention, qui est plus dure à mesurer. On va maximiser la rentabilité des actes pour les infirmiers, sans plus de prise en compte du temps pour soutenir psychologiquement les patients, etc. Donc le travail est quantifié, il est quantifié d'une certaine façon, et ce travail n'est payé qu'une fois fait. Sinon, les infirmiers prendraient plus de temps pour le bien-être des malades, par exemple, parce qu'ils pensent, ils penseraient, je pense, même si je ne suis pas infirmière, j'imagine, que c'est important pour la guérison et que c'est ainsi que l'on fait bien son travail. Donc, dans ces conditions, bien sûr, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, on ne peut pas critiquer les salariés des centrales nucléaires, par exemple, ou les salariés de Total, parce qu'ils défendent leur emploi. Cet emploi, même s'il est inintéressant, même s'il est nuisible pour la planète, on ne peut pas leur en vouloir. C'est le seul moyen qu'ils ont d'avoir un salaire et donc de vivre. Donc on voit bien que derrière cette discussion sur le travail, l'emploi, le salaire, il y a encore et toujours, lorsqu'on parle d'économie, le problème écologique qui est derrière. On ne pourra pas résoudre le problème écologique si l'on ne refonde pas auparavant le travail. Alors, ce qui est souvent rétorqué à Bernard Friot, quand il parle du travail communiste, c'est de dire que si le salaire est versé avant le travail effectué, certains travaux ne seront jamais faits. Et bien sûr, on pense à certaines professions, comme les rippers, par exemple. Or, il y a eu beaucoup d'enquêtes par des sociologues, par des psychologues sociaux, etc., qui montrent que les rippers, les éboueurs, sont parfaitement conscients de l'importance de leur travail.
On s'en aperçoit parfois, quand ils font grève, on le voit vite.
On le voit vite, hein, ça relève de l'hygiène publique, ça relève de la santé publique, on ne peut pas laisser les ordures s'amonceler. Donc le problème, ce n'est pas l'importance de ce travail, c'est les conditions de travail, les horaires, le salaire, la reconnaissance sociale. Il en va de même des professeurs des écoles, on le voit avec les vagues de démissions dans leur rang, des aides-soignants et soignantes, etc. Toutes ces personnes, elles aiment leur métier, elles sont conscientes de l'importance de leur métier, mais ce qu'elles n'aiment pas, ce sont les conditions de travail, leurs horaires, leurs salaires, les contraintes qu'on leur impose dans la façon de faire le travail. Donc dire que les individus vont refuser certaines activités dès lors qu'ils ont un salaire, ça se discute. Donc, On me dit que l'heure tourne. Pourtant, oui, je parlerai plusieurs jours là-dessus.
On me fait des signes. Je vous fais des signes pour vous dire qu'il faut peut-être arriver bientôt à une conclusion. On ne peut pas conclure d'ailleurs ce sujet.
On ne peut pas conclure. Mais vous voyez, on a quand même des pistes de réflexion sur comment on pourrait améliorer le travail, la perception du travail, comment on pourrait supprimer la souffrance du travail. Déjà, il faudrait que les travailleurs aient le droit de participer à la décision sur la façon d'organiser le travail dans une entreprise, la façon de faire son propre travail. C'est une des propositions faites par Olivier Favreau dans son rapport à l'Organisation internationale du travail. On pourrait aussi, c'est ce que propose donc Bernard Friot, donner un droit fondamental. Chacun a droit à un salaire, à sa majorité. Et chacun aussi a... Donc la propriété d'usage de son outil de travail, je viens de le dire, et le droit de participer donc aux décisions. Chacun a la responsabilité donc de participer à l'évolution de la société dans laquelle il travaille.
Et peut-être prendre en compte un peu mieux la souffrance au travail, qui n'est pas trop prise en compte aujourd'hui. On parlait des médecins du travail qui se rebellent un peu parce qu'on veut leur imposer de supprimer des arrêts de travail pour des raisons médicales, mais qui s'imposent. Et surtout aussi, rappelons la suppression dans les entreprises de ce qu'on appelait les CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène et de sécurité et conditions de travail, qui ont été fondus dans les CSE en 2020 par les ordonnances de M. Macron, qui est toujours président de la République, rappelons-le.
Oui, et puis on peut aussi rappeler sur ce même thème que lors de la dernière réforme des retraites, on a supprimé certains faits de pénibilité, comme par exemple de manier des charges lourdes. On a supprimé ces choses-là, donc on augmente encore plus la souffrance au travail et l'aliénation au travail.
Bien, on va digérer tout cela en écoutant quelques mesures de... Alors, je vais essayer de bien le prononcer, de Chaka Ponk. Vous allez voir, c'est un groupe que personnellement, je ne connaissais pas, mais c'est une suggestion qui m'a été faite par un auteur, un écrivain, Ludovic Bouquin. Et je vous parlerai bientôt d'ailleurs de son dernier livre qui va sortir, Gâteau de semoule 2.0. Donc je ne sais pas ce que c'est, je suis très curieux de savoir. Et il a l'air de beaucoup aimer ce groupe, donc je vous le propose. Let's go!
Oh,
Voilà, Sac à Ponk, groupe français comme le souffle Léo qui est aux manettes. Le conseil de mon camarade Ludovic Bouquin, écrivain, et qui a l'air très accroché par ce groupe et qu'il a l'air de très bien connaître. Donc voilà, nous l'avons, enfin pour ma part, je l'ai découvert et avec plaisir, j'espère qu'il en était de même pour vous. Nos rubriques de fin d'émission, Anne, l'économie en Occitanie. Alors, une enquête de conjoncture des CCI d'Occitanie qui a été menée en juin-juillet 2023, donc c'est pas trop vieux, où ils sont allés recueillir les témoignages de 3248 chefs d'entreprise, soyons précis, et qui nous apprend que le secteur industriel a bénéficié d'un rebond d'activité au deuxième trimestre 2023, mais que l'avenir apparaît désormais un peu plus incertain. Rebond d'activité également dans le secteur de la construction, important, vous savez, on dit toujours quand la construction va, tout va, je ne sais pas si c'est vrai, mais on nous répète ça depuis des années. Et là-dessus, les anticipations sur le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre vont dans le sens d'une stabilité de l'activité. Le commerce a retrouvé quelques couleurs, il était un peu palichon au second trimestre, mais on peut s'interroger sur ce que va être l'avenir tout de même. Et le contexte économique paraît peu porteur pour les secteurs hôtels, cafés, restaurants, qui sont en proie aux arbitrages budgétaires des ménages, qui doivent faire des choix. On ne peut pas trop aller au restaurant ces temps-ci avec ce qui reste à la fin du mois, et même d'ailleurs pour beaucoup avant la fin du mois. Donc perspective à venir négative. Quant au secteur des services, qui est toujours confronté à un ralentissement d'activité, il risque de rester sur ce ralentissement parce qu'il n'y a pas vraiment de perspective de rebond. Vous avez une idée, Anne, sur ces questions?
Oui, mais ça montre bien, oui, que les anticipations, c'est quelque chose d'extrêmement important en économie, en fonction de ce que les gens anticipent, que ce soit les consommateurs, les chefs d'entreprise, enfin peu importe, on va adapter son activité, et aujourd'hui les anticipations sont difficiles, les gens sont dans le doute, sont dans la peur. Ceux qui arrivent jusqu'à la fin du mois, beaucoup n'arrivent plus jusqu'à la fin du mois. Ceux qui arrivent jusqu'à la fin du mois ont peur aussi de l'avenir, donc ça, c'est pas bon pour l'économie.
Toutes choses auxquelles il faut impérativement que nous réfléchissions et qu'on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que ce soit toujours gagnant-gagnant pour tout le monde.
Gagnant-gagnant pour tout le monde. Et une des façons de faire, c'est de diminuer le risque, la peur chez les individus. Or, toutes les réformes du travail et des retraites augmentent le risque. Le risque d'avoir moins de salaire, d'avoir moins de pension de retraite, d'avoir etc.
Venons-en à notre dernière rubrique, un conseil dit culturel. De quoi vous nous parlez, Anne?
Alors moi, je vous parle de deux choses. D'abord, d'une radio concurrente, Radio Blast.
Il faut faire de la publicité pour tous nos camarades, il n'y a pas de raison.
Blast, ça s'écrit B-L-A-S-T. BLAST, oui, c'est ça, Radio Blast, qui est une radio donc internet et qui notamment fait des émissions d'économie, et notamment depuis peu, une émission de 15 minutes où Gilles Raveau vous explique l'économie. Alors pour compléter notre émission sur Radio Occitanie, c'est parfait.
À part que cet esprit Occitanie, Radio Occitanie, c'est autre chose, Anne.
Oui, bien sûr. Oui, esprit Radio Occitanie, pardon. Donc première leçon, c'est l'inflation. Donc je vous propose d'écouter Gilles Raveau sur cette radio Blast. Et un autre conseil toujours sur le travail. Il y a une association d'éducation populaire qui propose de réfléchir sur le travail. Ça s'appelle Réseau Salariat. Donc on le trouve aussi sur Internet et on a beaucoup d'informations aussi et beaucoup de ressources pour réfléchir sur ce qu'est le travail, ce qu'est le salariat, etc.
Moi, je vais vous conseiller un film qui a été diffusé le 10 octobre, c'est-à-dire très récemment sur France 2, mais j'imagine qu'on peut le retrouver sans aucun problème. C'est un film de Fabien Béziat et d'Hugues Nancy qui s'intitule « Nous, les ouvriers ». Donc c'est un peu, je ne sais pas si vous l'avez vu, Anne, c'est un peu...
Non, mais j'ai vérifié, il est sur le replay.
Donc on peut le regarder. Voilà, on va le regarder en replay. Et donc vous pourrez effectivement voir un peu cette rétrospective où on va nous parler, on va remonter très loin, on va remonter en 1895 au début du film. Lorsque les frères Lumière, Auguste et Louis, vont installer leur cinématographe, puisque c'est eux qui l'avaient inventé, ils vont l'installer rue Saint-Victor à Lyon, face à l'entrée de leur usine, et puis ils vont voir ce qui se passe, hein, ils vont voir des femmes qui en chapeau, qui sortent du hangar. C'était le premier film sur l'histoire du cinéma, et ce sera certainement les ouvrières qui sont au centre. On va parler des tisseuses de Roubaix, des sardinières de Douarnenez, des trieuses de charbon. Hein, voilà, donc là on remonte, et puis après on en vient progressivement à notre époque, et au moment où quelqu'un dit c'est la fin du siècle, pour être entendu, à la fin du 19e. Pour être entendu, il faut être organisé. C'est là que va être fondée la CGT, la création de la SFIO, des mouvements de colère contre les répressions féroces pour ramener la journée de travail de 12 à 8 heures, rappelons-le quand même, hein, et l'obtention, enfin, d'un jour de repos hebdomadaire. Alors dit aujourd'hui, si on en parle, on a l'impression d'être des dinosaures, ben c'est pas si vieux quand même, hein. Puis après, Première Guerre mondiale, enrôlement massif des coloniaux sur le front, et il fallait bien faire tourner la machine, donc on envoie les femmes aux usines. Dans la confection, les midinettes, hein, qui vont être embauchées pour sertir les obus. On les sort des métiers à tisser. À la fin de la guerre, bien l'américain Ford, on en parlait il y a quelques minutes, et son organisation scientifique du travail, Citroën, Renault qui vont rationaliser la chaîne de montage, répétition obsédante, cadence infernale, le travail prend possession des corps, c'est tout à fait ce que nous avons dit. Donc je vous renvoie, après ça ne s'arrête pas là, mais je vous renvoie à cet excellent film, Fabien Béziat, oui. Hugues Nancy, Nous les ouvriers, et donc vous pourrez le retrouver sur France 2, puisqu'il y a des replays.
Oui, oui. Il y a des replays, et puis c'est très important parce que ça montre tout ce que les ouvriers ont apporté dans la construction de nos sociétés, de notre économie, et aussi ce qu'est le droit du travail. On voit bien, je ne l'ai pas encore vu, mais... On voit bien que le droit du travail, il a été créé parce que justement, il y a une asymétrie dans les relations du travail entre l'ouvrier, celui qui travaille, et celui qui emploie. Il y a une relation d'assujettissement, et donc il faut que le droit protège celui qui travaille. Et c'est pour ça qu'on a permis aux ouvriers de se syndiquer, de créer des groupements pour se défendre, c'est pour ça que, etc. Hein, toutes les luttes sont justement pour reconnaître. Et ce qu'on voit à partir des années 80, c'est que tout ce droit qui a été acquis parce qu'il y a cette asymétrie, eh bien, on le détricote, on le défait. Hein, on défait... Tout ce qu'il y a sur le droit du travail, et on augmente parallèlement, hein, ça va automatiquement ensemble, la souffrance au travail.
Merci Anne. Alors avant de clôturer notre émission, on va rappeler une pensée, le combat courageux, l'abnégation de certains contre cette aberration qu'on appelle l'A69, autrement dit l'autoroute Toulouse-Castres, qui est un projet daté, il y a 20 ans on aurait peut-être pu le concevoir, qui est dépassé aujourd'hui, qui est coûteux, en argent et surtout en termes d'environnement, hein, donc pour gagner quelques minutes, payer 17 euros et y mettre l'investissement qu'il y a, bétonner, expulser des agriculteurs, couper des arbres, etc. Ça paraît complètement fou. Oui. Beaucoup de citoyens le disent, beaucoup de chercheurs et d'universitaires, ils sont assez nombreux d'ailleurs à avoir écrit, je crois qu'ils sont 1500, le disent, et on peut regretter que notre présidente de région, Madame Delga, pour ne pas la nommer, soutienne ce projet qui me semble complètement fou, et peut-être à vous aussi, Anne, à l'époque où on est aujourd'hui, avec les impératifs qui sont les nôtres.
Oui, surtout qu'il y a déjà des routes à quatre voies, donc ça va. Ceux qui ne vont pas payer devront repasser par les villages, etc. Donc on voit bien, hein, tant qu'on restera enfermé dans cette vision de croissance, économie, marché, capitalisme, etc., on ne s'en sortira pas, et notamment au niveau écologique.
Et pour avoir dû rejoindre Castres et son tribunal assez souvent dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais été empêché d'y aller. La route n'était pas très très agréable parce qu'il y avait quand même quelques difficultés de circulation, mais je pense qu'on peut les gommer aujourd'hui sans mettre cette grande machine qui est en train de nous bouffer à œuvre. Voilà, s'il fallait le dire, c'est dit, c'est fait. C'était Economica, une émission de Anisla et de Jacques Lavergne. Aux manettes, Léo Touroult, qui est officier, on le remercie. Et puis, vous pourrez trouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.
Belle journée.